Tous les jours, 16h-19h, le Drive RTL 2 avec Eric Jean-Jean et Mathilde Courgeot.
La vie est belle, elle est belle notamment parce qu'on a une interview exclusive à vous proposer maintenant. Ça s'est passé samedi, alors samedi soir, ils sont venus dans une toute petite salle. Il y a 1000 personnes qui peuvent rentrer à la Cigale quand on sait qu'on a un Stade de France, quand on sait qu'on a Bercy, etc. C'est une petite salle en haut de Barbès, sur le boulevard Rochechouart. C'est une salle formidable qui a été réouverte en 1987. D'ailleurs, j'ai appris ça en y allant samedi par les Rita Mitsuko. Bref, c'est un endroit sublime, mais tout petit pour un groupe qui est capable de remplir d'une part le Parc des Princes, d'autre part le Stade de France. Ils l'ont déjà fait, c'est Muse, et le chanteur Mathieu Bellamy a accordé un entretien à Mathilde samedi dans le courant de l'après-midi avant ce fameux concert à la demande. C'était assez étonnant.
Oui, un concert à la demande puisque les fans qui ont pu avoir leur place via leur site internet officiel muse.mu ont pu choisir 5 titres chacun, et ensuite il y a eu un vote, un algorithme, enfin que sais-je, je ne sais pas compter. De toute façon, par contre, j'ai su poser des questions à Mathieu Bellamy. La première, évidemment, pourquoi Paris pour ce concert à la demande? Nous avons eu une forte demande des fans français sur les réseaux sociaux. On l'avait fait l'an passé à Londres, au Shepherd's Bush, et le retour était génial. Mais les fans français étaient un peu déçus qu'on ne le fasse pas aussi chez eux. On a quelques idées des chansons choisies. On a eu les votes ce matin.
And there's some unusual ones in there.
C'est assez surprenant pour certaines.
Yeah, there's one song called Eternally Missed, which
is a qui s'appelle Eternally Missed, qui est une phase B d'un de nos premiers singles. On l'a pas joué depuis 16 ou 17 ans. Mais c'est drôle parce que je pensais que c'était une chanson oubliée, qu'on pouvait pas s'en souvenir. Mais visiblement, les fans français l'aiment vraiment bien.
Et cette chanson, ils l'ont jouée quasiment en troisième ou quatrième position du concert. C'était dingue. Il l'a dit d'ailleurs à Mathieu pendant le concert, qui était un concert absolument incroyable, hyper puissant. Il a dit qu'il y a des chansons qu'ils n'ont pas jouées pendant depuis des années.
Exactement. Mais lui, Mathieu Bellamy, de qui il connaît les phases B et pour quelle chanson il voterait pour un concert à la demande?
Maybe Weezer
or probablement Rage Against Weezer the Machine, ou Rage Against the Machine.
Or someone like that, yeah.
Nirvana aussi, un de ses groupes.
Yeah, someone like that, yeah. I would choose,
en chanson, je crois que je choisirais R-E-S-P-E. Je me souviens plus du nom de la chanson. C'était sur l'album Renegades, l'album de reprise.
Maggie's Farm.
Ah si, Maggie's Farm de Rage Against the Machine. Je les ai jamais vus la jouer en live, j'aurais vraiment adoré. C'est un grand fan de Rage Against the Machine.
Mais surtout, il est tellement bon sur scène. Et puis là, en l'occurrence, dans cette toute petite salle, toute petite scène, c'était l'énergie. Alors, c'est vraiment Power Trio. Ils ont fait vraiment beaucoup, beaucoup de bruit, hein, là, dans le cadre de ce concert-là. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute une chanson, on continue l'interview?
Moi, je propose qu'on écoute une chanson et ensuite, on va parler de ce nouvel album qui va arriver.
Cool. C'est une exclusivité signée Mathilde Courgeot. From Paris, elle a croisé Mathieu Bellamy. L'anglais, il est du sud de l'Angleterre, en bas, hein, pas très loin de la France, je crois. Le groupe a été formé dans le sud de l'Angleterre, je crois, j'en suis presque sûr même. Et voilà, et il était à Paris hier pour un concert exceptionnel, samedi pour un concert exceptionnel, et en interview aujourd'hui sur RTL 2. Les voici en live, c'était à Paris, à Bercy,
en 2016. Bliss.
Yeah.
live à Bercy, c'est Muse, dont le chanteur Mathieu Bellamy est en interview avec nous sur RTL2. Et pendant le concert, justement, il y a eu beaucoup de guitares électriques. Il a même une guitare électrique, je crois que c'est Fender, où il y a un petit pad après les cordes, et il tripote le pad un peu comme on le ferait pour, vous savez, un truc tactile sur un ordinateur, et ça fait des sons incroyables. Enfin bref, ils sont très très forts.
Quel geek.
Ouais, à fond. Mathieu Bellamy qui, Mathilde, samedi, tu l'as rencontré, on le disait tout à l'heure, t'as parlé d'un nouvel album, parce qu'on a reçu un single, mais on ne savait pas beaucoup plus.
Oui, alors en fait, c'est surtout, on voulait parler de Soul Contagion, qui est le nouveau single qu'ils ont sorti il y a quelques temps. C'est un single isolé qui annonce quand même un travail sur un album qui visiblement va avoir des sonorités et des collaborations assez surprenantes.
We're about halfway through the album process.
On en est à la moitié de la création de l'album. Soul Contagion est la deuxième chanson finie, mais on en a encore bien cinq de prêtes.
So we're going to have an album finished by the summertime.
L'album sera prêt pour l'été et sortira fin 2018, je pense. Ce que je peux vous dire, c'est que Soul Contagion, c'est la seule chanson qui sonne vraiment comme du Muse traditionnel. La prochaine sera une surprise, dans un style vraiment différent. La semaine prochaine, on va essayer de faire une chanson avec Timbaland, le producteur. C'est assez étrange. C'est un challenge différent. Bon, ça sera juste une chanson, une expérience. On va voir comment ça se passe. Mais sans aucun doute, on n'est jamais allé aussi loin hors de notre zone de confort. Oui, c'est assez surprenant. Alors il y a ce disque-là qui arrive, mais les deux précédents, Second Law et Drone, étaient très narratifs, très conceptuels. Et là, le groupe s'oriente plus vers un album visiblement cinématique.
I don't think it's going to be like a story, narrative or concept.
Ça sera ni narratif ni concept.
But there are some themes in the songs.
Mais il y aura forcément des thèmes qui nous tiennent à cœur, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle. Il y a définitivement l'influence de la série Black Mirror. Mais surtout, ça m'a renvoyé à mes films favoris.
Matrix, you know,
Total Recall, Matrix, qui a déjà 20 ans d'ailleurs, c'est complètement taré.
And also, there's definitely an influence on the album.
Mais on a toujours aimé la musique de film de toute façon. Et ce futur album est particulièrement influencé par la musique de film en général et surtout celle des années 80.
Et encore une fois, il fait allusion à Black Mirror, cette fameuse série dont tu nous parles tout le temps, Mathilde, et que finalement on va finir par conseiller à tous les auditeurs du Drive RTL2, c'est sur Netflix.
Carrément.
Bah, merci pour cette interview, voilà, ça n'arrive que sur RTL2, ce genre d'interview, et on est ravis d'avoir eu Mathieu Bellamy. C'était vraiment le concert à ne pas rater, bien qu'il y avait un gros concert hier soir, hein, appelé Omnisport de Paris-Bercy, c'est pas pop-rock, c'était Kendrick Lamar, mais quand même, Muse, c'était le concert, je crois, le plus couru de ce week-end. Connaissez ces notes, celle de Alléluia, Jeff Buckley sur RTL2. Ce sera le disque du jour qu'on vous raconte avec Mathilde. Ce titre d'ailleurs, et c'est l'histoire de la chanson qui n'est pas un titre de Jeff Buckley.
Ouais. Alors que c'est pourtant le morceau le plus connu, hein, puisqu'il s'agit quand même d'une reprise de Leonard Cohen, un morceau que Leonard Cohen avait sorti en single, c'était en 1984. C'est John Cale du Velvet Underground qui reprend très sobrement Alléluia sur un album tribute qui s'appelle I'm Your Fan en 91, et c'est celle-là en fait, c'est cette version-là que Jeff Buckley va reprendre.
Elle est un peu différente à la version de Leonard Cohen en vrai.
Oui, elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus simple, voilà. Et la version de Buckley ne prendra en vérité de l'ampleur qu'après la mort de Jeff Buckley en 97, amenant beaucoup de programmes télé et de films à l'utiliser pour faire un peu pleurer dans les chemières, alors que dans les propos, c'est pas une chanson si triste que ça. Alléluia, c'est effectivement un mot hébreu qui signifie gloire à Dieu, et puis au travers de sa chanson, Leonard Cohen, il explique que tous les Alléluia sont égaux, qu'ils soient brisés ou parfaits. En fait, il explique aussi son désir d'affirmer sa foi en la vie avec enthousiasme et émotion, plutôt qu'au travers des religion. C'est ça le message d'Alléluia. Mais on peut y lire également quelque chose qu'on n'entend pas très souvent, c'est des références sexuelles, notamment dans les citations de femmes de la Bible, Bessabée et Dalila, qui auraient, je cite, causé la perte des hommes. Et c'est d'ailleurs selon une interview de Buckley à la sortie de son album en 94, l'aspect de la chanson qu'il a voulu mettre en évidence dans sa propre version, la célébration de la vie par le sexe.
Anecdote, Bono enregistre aussi une reprise d'Alléluia, c'est ça, hein ?
Oui, c'était en 95 pour un album hommage aussi. C'est une reprise trip-hop, complètement ratée, mais c'est toujours sympa de se dire aussi que les stars comme Bono peuvent complètement rater des hommages.
Voilà. Je suis désolé, je me suis gouré. Bon, cette chanson, on va l'écouter. On s'est fait un peu plaisir en vous en mettant les premières notes avant de parler. Et là, du coup, on va se la faire en entier. Vous êtes sur RTL 2. Le titre du jour s'appelle Alléluia. Et c'est Jeff Buckley.
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew. It's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah. Maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah.
C'est de la discothèque, il y a du drive. On va pouvoir faire un truc important à la fin de la saison parce qu'on aura plein de beaux disques sortis. En l'occurrence, celui d'aujourd'hui, Californication, Red Hot Chili Peppers.
C'est le 7e album studio des Red Hot qui est sorti en 99. C'est notre sélection aujourd'hui, mais en fait, pour comprendre son importance, il faut faire quand même un petit retour en arrière. Les Red Hot, c'est quoi? C'est une histoire d'amour, d'amitié, de musique depuis le début des années 80. Flea et Anthony Kiedis se rencontrent au lycée, donc le bassiste et le chanteur, ou plutôt en dehors du lycée où ils vivent.
Ils vont pas énorme.
Ils font du skate et ils en parlent dans leurs chansons. Ils parlent de leur vol aussi, de leur galère, de la drogue. Et en 88, il y a le premier guitariste qui s'appelle Hillel Slovak et qui meurt d'ailleurs d'une overdose d'héroïne et qui se fait rapidement remplacer par John Frusciante, un fan du groupe et surtout un guitariste absolument prodigieux. Il va les accompagner sur scène et en studio sur deux disques, mais lui ne supporte pas le succès et il doit justement éviter ce qu'a fait le précédent guitariste et part en désintox. C'est lui qui joue de la guitare là. Après le flop commercial de One Hot Minute, sur lequel Frusciante avait été remplacé par la guitare un peu plus heavy de Dave Navarro de Jay's Addiction, le groupe propose à Frusciante, sobre et libéré de ses addictions, de reprendre sa place. Flea et Anthony Kiedis lui offre une Fender Stratocaster que vous entendez là et qui donnera le son à l'album Californication. L'album met des mois à se finaliser parce qu'Anthony Kiedis, il se met pas mal la pression autour de cette chanson-là, justement, Californication, qui va donner son nom au disque. Alors que Kiedis et Frusciante se retrouvent, ils se livrent, et ils ont une nouvelle vision de la vie qui est commune, elle est plus saine, elle est moins superficielle, et c'est ça qui va teinter l'album et les paroles. La superficialité out. John Frusciante est différent et d'ailleurs il restera pas très longtemps, pas plus longtemps que ce disque-là et une tournée, mais quand même, il aura été important puisque c'est lui qui va probablement avoir changé la vie du groupe. Et preuve de leur engagement dans le droit chemin, les Red Hot Chili Peppers offriront des places de concert aux élèves de lycée qui en 99 rédigeront un essai sur, je cite, « comment rendre leurs écoles meilleures, plus sûres et plus heureuses, de sorte qu'il n'y ait plus peur d'y aller ». Il s'était passé quoi en 99? La fusillade de Columbine. C'est toujours d'actualité.
Le titre qu'on a choisi pour vous dans cet album s'appelle Other Side, c'est sur RTL2 et c'est donc tiré de la discothèque idéale du drive Californication, l'album des Red Hot Chili Peppers.
I
La plus mignonne de Liam Gallagher.
Ouais, c'est Liam Gallagher, donc évidemment ex-Oasis. Il a été interviewé pour Noisy, qui est un magazine en ligne. La rubrique musicale du magazine Vice a organisé une rencontre avec un groupe d'enfants à peu près à les moyennes sections de maternelle. Et les enfants ont été hyper inspirés par cette rencontre. C'est une interview, franchement, c'est la meilleure interview que j'ai jamais vue de Liam Gallagher.
Alors, voilà. Quel est ton Disney préféré?
Alors, son Disney favori, c'est Le Monde de Nemo.
Génial. Quand tu fais un bon concert, est-ce que tu manges des bonbons après?
Et il répond... Il répond en quelque sorte oui. Et les enfants avaient l'air assez intéressés par la musique. Quel est le titre qu'ils préfèrent jouer? Bon, bah c'est Live Forever. Et certains lui ont posé des questions beaucoup plus originales. Par exemple, quels sont tes pets préférés?
Mais non.
Il a répondu Loud Farts, c'est-à-dire les pets bruyants. Merci beaucoup, Liam Gallagher, et merci beaucoup, les enfants qui sont fraîcheurs de vivre dans cet univers musical.
Trop bien. Et d'ailleurs, c'est un truc à réfléchir pour nous. Endroit préféré au monde, la Tour Eiffel. Et conseil de donner aux enfants, si vous voulez devenir une rockstar, regardez par la fenêtre et faites des pets bruyants. Voici le journal Hoche.
Le monopole de la rime
Hoche. Voici le journal de la muse Hoche. Tu vas t'en sortir.
Oui.
Avec Bon Jovi, on commence par les Stones qui feront escale à Marseille le 26 juin. Très bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle. Ouais. La reprise de la tournée Stones No Filter qui va amener le groupe dans ce qu'on appelle les temples du sport, comme ce stade Vélodrome à Marseille le 26 juin, Old Trafford, à Manchester, Murrayfield à Édimbourg ou encore le Mercedes-Benz Arena à Stuttgart.
Yeah.
Et ça, c'était mon meilleur accent allemand. Les Stones ont déjà joué plusieurs fois à Marseille, où ils s'étaient produits pour la première fois en 66 et la dernière fois en 2003. La billetterie ouvre pour la tournée européenne le 2 mars, c'est-à-dire vendredi. Et pour les billets du concert marseillais, ça sera le vendredi 16 mars. Il va falloir être rapide, j'imagine.
Ouais, je les avais vus, moi, à la U Arena. J'avais trouvé qu'ils avaient pris un petit coup de vieux. Il était fatigué pendant le concert, j'espère que ça ira mieux. Bon Jovi, Rock'n'Roll, Hall of Fame et Rosé.
Eh oui. oui. Le groupe du New Jersey, Bon Jovi, sera réuni dans sa formation originale pour jouer quelques chansons lors de la cérémonie d'introduction au Rock and Roll Hall of Fame. Ça sera en avril à Cleveland aux États-Unis avec Alec John Such qui avait quitté le groupe en 83 et Richie Sambora qui l'avait quitté en 2013. Donc c'est la première fois qu'ils se retrouvent tous ensemble depuis une petite paire d'années. Et d'autre part, John Bon Jovi, lui, se lance dans le rosé du Languedoc, disponible uniquement aux États-Unis pour le moment, mais c'est le fruit visiblement d'une rencontre entre lui, son fils et le vigneron Gérard Bertrand qu'on connaît bien en France parce qu'il est dans tous les supermarchés en fait.
Bah, c'est super cette histoire, j'espère qu'il y en aura bientôt en France. Il faut trouver aujourd'hui sur le HuffPost. On va vraiment finir par croire, et ça c'est génial, que les Simpsons en fait ont un don de prédilection.
Oui, on vous en avait déjà parlé, la série avait prédit l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, par exemple, dans un épisode de je ne sais plus quelle saison, mais aussi le rachat de la 21st Century Fox par Disney. Et bien samedi dernier, son pouvoir de prédiction a encore frappé, figurez-vous, puisque les Américains ont remporté l'or aux Jeux Olympiques d'hiver face à la Suède dans l'épreuve de curling. Et c'est une surprise, parce que c'est la première fois que l'équipe américaine arrive à avoir une médaille dans ce sport-là, sauf que les Simpsons l'avaient déjà prédit, c'était il y a 8 ans, dans l'épisode 12 de la saison 21. Faut vraiment être hyper hyper fan hein, pour aller faire ce genre de recherche.
C'est le producteur des Simpsons hein, qui a dit que ça s'était passé comme ça. Donc.
Merci Thomas, merci beaucoup. En tout cas, ça a été diffusé pendant les JO de Vancouver. On voyait Homer Simpson et sa femme former une équipe de curling avec deux autres personnages. Et comble du comble, ces derniers avaient décroché l'or face à la Suède, exactement comme ça s'est passé dans la réalité.